Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Les titres du journal, c'est tout de suite avec Cédric Valax. Bonjour Cédric.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Demi-succès ce matin, place Talaoï pour Oscar Temaru. Sa marche contre le nucléaire et pour la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser n'a réuni que 2000 personnes. Damien Hélène était sur place. Dans notre seconde partie de journal et dans la continuité de la Journée internationale des femmes, vous entendrez l'entretien que nous avons réalisé hier avec Anne Culler, commandant supérieure des forces armées en Polynésie française. Elle est la seule femme amirale en service dans la Marine nationale.
Le journal en direct de Habitat Expo, place Toata avec Cédric Valax. Et 2000 personnes marchent aux côtés d'Oscar Temaru.
Le Tavini Wiratil a organisé ce matin une marche pour la lutte antinucléaire et pour le soutien de la démarche visant à réinscrire la Polynésie française sur la liste onusienne des pays non autonomes à décoloniser. Le président du pays espérait ferveur et une mobilisation générale. Ce n'était pas le cas ce matin malgré la présence des passagers du Peace Boat. C'est ce que nous explique Damien Hélène qui était place Talaoï.
Nous sommes actuellement place Talaoï. Et ce que l'on peut dire, c'est que le Tavini n'a pas su faire bouger les foules ce matin pour cette marche qui a deux visées, à la fois lutter contre le nucléaire et également fédérer la population pour la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. Alors à 10h, point de rencontre des deux cortèges, le premier parti de la mairie de Faha et le deuxième à l'est du stade Nahiti. À Aroué, on ne comptait que 2000 personnes. Malgré cela, le président du pays garde le sourire, tout va bien pour lui, c'est ce qu'il nous explique. Nous avons également demandé quelles étaient vos motivations dans cette marche.
Très 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 bien, c'est une marche pacifique, le beau temps est au rendez-vous, donc ça se passe très très bien. C'est un moment de plus pour informer cette population, surtout cette jeunesse qui n'a pas vécu ce que nous avons vécu, et faire un résumé de tout ça.
Pour la décolonisation, pour que vraiment on arrête de faire péter des bombes et pour la paix dans le monde.
C'est quelque chose de très important aujourd'hui à toutes et à tous, aux Polynésiens qui vivent sur leur propre pays. Ce n'est pas en disant que nous on vient fait pour faire la marche pour rien du tout. Je crois des années écoulées jusqu'à aujourd'hui, ça suffit. Parce que la plupart des gens, eux, ils parlent en disant que c'est trop cher la vie ici en Polynésie. C'est normal. Parce que la loi française et la loi de la Polynésie, ça fait deux taxes. Alors pour sortir l'autre taxe, je préfère de prendre ma liberté ici en Polynésie, notre loi.
Et le président du pays, Oscar Temaru, est attendu ici pour un discours, place Talaoï, à midi. Il devrait revenir sur le nouveau texte présenté aux Nations Unies portant sur la décolonisation de la Polynésie française.
Et un rassemblement également eu lieu à Paris.
Pour faire écho à la marche organisée ce matin par le Tavini, l'association Sortir du colonialisme, des représentants de l'USTKE et le collectif Solidarité Kanaki se sont réunis devant la maison de Tahiti, boulevard Saint-Germain à Paris. Sur place donc, ils étaient 10 personnes, dont un élu européen, mais aucun polynésien. L'objectif de ce regroupement, apporter leur soutien à la réinscription de la Polynésie française sur la liste des pays non autonomes à décoloniser. Explication de Jean-Jacques Bicep, député européen Europe Écologie Les Verts, en charge de l'Outre-mer.
Pour nous, à Europe Écologie Les Verts, nous sommes solidaires avec les revendications d'autodétermination, bien entendu, du peuple polynésien. Nous disons que le droit de disposer d'eux-mêmes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un droit qui s'applique aux Polynésiens et que les Polynésiens ont le droit de choisir la formule qu'ils veulent pour soit quitter la République française, si c'est leur désir, soit y rester par une forme d'association, si c'est leur désir. Mais en tout cas, ils ont le droit de choisir.
Autre revendication, la mise en place d'un contrat de rattrapage et de développement concernant les essais nucléaires en Polynésie. Détail avec Patrice Farbiaz, président de l'association Sortir du colonialisme.
La deuxième chose, c'est la question de la réparation, du droit de réparation, qui, pour toutes les conséquences environnementales, sociales, qu'il y a aujourd'hui, notamment avec la destruction d'une partie de l'île de Mururoa et la disparition de plusieurs îlots, nous semble très très grave. Et donc il n'y a jamais eu un véritable plan de rattrapage, même s'il y a eu beaucoup d'argent déversé, qui permette d'enrayer ces conséquences.
Notons que ce rassemblement devant la délégation de la Polynésie à Paris a été organisé par les organismes de sortir de la colonisation de métropole, mandatés par le Tavini Wiratila d'Oscar Temaru. Les manifestants ont ensuite quitté la délégation pour rejoindre la chaîne humaine organisée par plusieurs associations pour commémorer le deuxième anniversaire du drame de Fukushima.
Radio 1, premier sur l'info.
Retour Place Toata, c'est le salon Habitat Expo avec Cédric Valax en direct et puis une rencontre avec l'amiral Anne Kuller.
Dans le prolongement de la journée de la femme, nous allons vous diffuser un entretien réalisé hier avec Anne Kuller, commandante supérieure des forces armées en Polynésie française. Elle est la seule femme amirale en service dans la marine nationale. Dans cet entretien, elle revient sur son parcours, le parcours d'une femme qui a su aller jusqu'au bout de ses rêves. Pour cette journée internationale de la femme, nous recevons dans nos studios une femme au parcours exceptionnel. Elle commande les forces armées de Polynésie française. Elle est surtout la seule femme amirale en service. Anne Kuller, bonjour. Vous êtes rentrée dans la marine et pourtant, à la base, vous auriez pu être hôtesse de l'air. C'est ce que vous avez raconté aux jeunes que vous avez rencontrés dans la matinée.
Alors j'aurais pu être hôtesse de l'air parce que j'ai vu passer, étant jeune, des jeunes femmes militaires qui habitaient, qui travaillaient sur une base aérienne juste à côté de chez moi. Et évidemment, quand on a 7-8 ans, une petite fille, on voit des jeunes femmes en uniforme, ça donne envie. Donc c'était la première envie d'entrer dans l'armée, c'était ça en fait. C'était vraiment les uniformes. Donc j'aurais pu aussi bien effectivement être hôtesse de l'air pour l'attrait de l'uniforme.
Mais vos études, en plus, vous avez suivi un cursus scolaire et universitaire qui n'avait absolument rien à voir et qui vous ne prédestinait pas du tout à rentrer dans l'armée.
Alors tout d'abord, je n'ai pas de parents militaires. Donc déjà, pas de background militaire en tant que tel. Puis effectivement, des études de lettres et de langue étrangère avec une option tourisme qui m'a fait travailler dans des offices de tourisme en France et qui m'a fait découvrir que vraiment, je n'étais pas faite pour ça.
Alors quel est votre premier contact avec l'armée ?
Le premier contact avec l'armée, c'était en fait dans un bureau de recrutement et où je me suis présentée avec mes diplômes en disant je souhaiterais entrer dans l'armée. Plus particulièrement l'armée de l'air, parce que j'avais quand même toujours ça en tête. Comment puis-je faire ? Et donc, c'était assez surprenant parce que malgré ce bagage que j'estimais moi important, avec licence, maîtrise, il n'y avait pas grand-chose, si ce n'est au niveau du grade de sous-officier. Et j'avais plus d'ambition quand même. Voilà.
Et surprise, c'est la radio qui vous a mené en fait à la carrière. On va extrapoler à votre poste actuel, c'est grâce à la radio.
Alors absolument, c'est grâce à la radio parce qu'il y avait, il y a eu un jour une émission sur France Inter où l'armée a présenté ses métiers et donc appelait les jeunes à téléphoner, ce que j'ai fait. Et donc on m'a confirmé que si, il y avait des concours que je pouvais passer au niveau officier et ce que j'ai fait dans l'année qui a suivi. Donc un concours inter-armée. Marine, terre, air. In fine, c'est la marine qui a choisi. Arme que je n'avais pas du tout choisi moi-même.
Oui, parce qu'en plus, vous venez, si je me souviens bien, d'un pays plutôt montagneux et vous vous êtes retrouvé à Cherbourg. Ça devait être assez perturbant.
Oui, alors effectivement, je suis originaire de Savoie. Donc, je suis plutôt montagnarde. Et arrivé à Cherbourg, il pleuvait. C'était une bruine fine habituelle à la Normandie, bien que j'aime beaucoup la Normandie. C'était la fin de le bout du monde pour moi. On arrive dans cette gare un petit peu froide et puis on sait qu'on va découvrir la marine. Et horreur, je découvre qu'en plus, les femmes ne peuvent pas embarquer. Donc je m'étais fait plein d'idées en me disant chic, c'est la marine. Mais en fait, non, les femmes ne peuvent toujours pas embarquer en 1981.
Et il se trouve que 12 ans plus tard, les portes s'ouvrent, les femmes peuvent embarquer. L'armée s'ouvre de plus en plus à la féminisation. Ça a été salvateur pour vous ?
Alors je pense que ça a été salvateur parce que je crois que je n'aurais vraiment pas aimé rester dans l'administration, dans les chiffres. Je n'aurais pas aimé ça. Donc cette porte qui s'entrouvre à ce moment-là, offrant aux femmes plus de possibilités, d'opportunités dans des métiers différents dans la marine, effectivement, ça m'a permis de rentrer de plein pied dans un métier qui s'est étoffé en opportunités au fur et à mesure que les portes se sont ouvertes. Alors, ma carrière, en fait, elle est assez simple, parce que quand je suis rentrée, les femmes n'embarquaient pas, mais les postes se sont ouverts progressivement. Et puis, donc, j'ai eu des postes à terre dans une première partie de carrière, à terre, en école. J'encadrais des jeunes qui rentraient en école. Et puis, progressivement, les portes. Deuxième ouverture de porte en 1993. Et là, les femmes peuvent embarquer. Il y a deux premiers bateaux qui sont à équipage mixte. Et je me porte volontaire pour embarquer. Et donc commence là une dizaine d'années d'embarquement avec à la clé deux commandements de bâtiments de surface, ce qui était une première à l'époque. Et puis, une étape clé également dans ma carrière, c'est l'accession à l'école de guerre, donc le collège interarmée de défense, qui est une étape indispensable dans une carrière d'officier pour progresser, pour vraiment progresser. Et donc, je réussis ce concours. Et puis ensuite, je continue dans des postes qui se diversifient. Je fais de la communication. Donc j'ai travaillé beaucoup avec les médias. J'ai été postée aux Antilles dans le domaine des opérations. J'ai eu également un poste au centre de planification et de commandement des opérations à Paris. Un poste dans les relations internationales. J'ai encore eu un poste embarqué en océan Indien. Donc des postes extrêmement variés, extrêmement enrichissants.
Pour finir, amiral, et là, vous êtes la seule en métropole.
Alors là, je suis la seule en métropole, même si je ne suis pas la première. Il y a eu une femme amiral avant moi, qui a eu un cursus particulier, puisqu'elle est rentrée comme femme ne pouvant embarquer dans la marine. Donc je suis la deuxième femme amiral, je suis la seule actuellement, puisque cette dame a quitté la marine. Et les autres jeunes femmes arrivent derrière moi. Donc il y en aura bien évidemment d'autres.
Alors, vous en parliez devant les jeunes qui faisaient leur journée de préparation à la Défense, leur journée civique. Diriger des hommes.
Alors, diriger des hommes, vous pourriez poser la même question à un homme et la question semblerait incongrue. Alors, moi, je vais vous répondre de manière très simple. Diriger des hommes, pour moi, ça n'a jamais été un problème, pour la simple raison que la vision, l'idée qu'ils se faisaient de moi, en fait, ne m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas, c'est leur problème. S'ils avaient des états d'âme, s'ils ont eu des états d'âme, c'était vraiment leur problème.
Ça ne vous a jamais perturbé dans votre façon de mener votre barque ?
Non, je n'ai pas eu le sentiment de chercher une place, je n'ai pas eu le sentiment de lutter en permanence. J'ai eu plutôt le sentiment d'être soutenue par mes chefs, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai eu des chefs qui très clairement m'ont fait confiance dans la plupart des postes où j'étais, et certains des moments clés de ma carrière, notamment quand j'ai commencé à embarquer avec un commandant de bateau qui m'a dit à un moment donné « Mais est-ce que vous avez pensé à commander vous-même un bateau ?» Donc vraiment des moments clés. Et puis j'ai eu des subordonnés, donc des sous-officiers, qui m'ont forgé. C'est eux qui m'ont formé à mon métier d'officier. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
Et ils vous ont fait confiance.
Et ils m'ont fait confiance, les deux, c'est-à-dire aussi bien mes chefs que mes subordonnés. Et c'est très porteur, ça porte, ça lève.
Alors, on imagine que vos fonctions maintenant, mais même les précédentes, prennent énormément de temps. Comment on arrive à concilier une vie familiale en dehors de son métier ?
C'est une question qu'on pose souvent à une femme qui a des responsabilités, je crois. Mais moi, je réponds à chaque fois, c'est une question de choix. Je crois qu'un homme, qui a ses responsabilités doit en faire également, de plus en plus dans la vie, dans la société dans laquelle nous sommes. Donc moi, je réponds, c'est une question de choix. Après, on se retourne en disant, ce choix était bon, cet autre choix était moins bon. Je crois également qu'il faut nécessairement un très fort soutien familial. Ça aide beaucoup parce que, évidemment, dans la marine, on embarque. Donc on part, il y a des absences. Et quand on a des enfants, eh bien, il faut pouvoir gérer ces absences. Donc un soutien familial, à mon sens, est indispensable.
Donc dans votre cas, l'égalité homme-femme, elle est parfaite.
Ah, dans mon cas, oui, tout à fait. Mais c'est une grande histoire, je dirais, je vais être un petit peu emphatique, mais c'est une grande histoire humaine. C'est une histoire d'une femme qui a fait son chemin et dans les capacités de laquelle des hommes ont cru. Voilà, tout simplement. Et ça a bien fonctionné.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditrices pour leur donner envie de se battre, d'avancer, ou enfin de se battre s'il y a raison de se battre ?
Je crois encore que dans certains domaines, il y a des raisons de se battre. Je pense en particulier au milieu politique, qui ne doit pas être simple du tout pour une femme. Mais je crois qu'il faut avant tout rester soi-même, avoir ses propres convictions. En tout cas, c'était mon cas. Et puis regarder autour de soi, on n'est pas seul. Alors c'est vrai qu'il y a des milieux qui sont sûrement plus difficiles que d'autres. Je pense peut-être que l'uniforme a aidé un petit peu, sans doute, parce qu'il y a quand même un règlement auquel tout le monde est censé se conformer, mais il n'en reste pas moins que derrière il y a la crédibilité, et ça on l'a ou on ne l'a pas. Donc moi je dirais aux femmes, eh bien, croyez en vous, avancez, et normalement, si tout va bien, les portes devraient s'ouvrir.
Anne Culère, merci.